Rayon libre.
Visiblement, il semblerait que vous n'appréciez pas la bicyclette, mes amis, hein? Vous estimez sans doute que le monde n'a pas besoin de pratiquer le vélo, hein? Que le monde n'a pas besoin d'un peu de cyclisme ni de savoir-vivre, hein?
Rayon libre sur Cause Commune.
L'idée, c'est que toutes les personnes qui peuvent faire du vélo le fassent. Et il y a encore de la marge, hein?
Je pense que le vélo, c'est tellement un outil qui rend libre.
Rayon libre, présenté par Jérôme Sorel sur Cause Commune.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, cette émission est en direct. Nous sommes le lundi 2 juin 2025 et cette semaine, We Love Green Loves Bikes. Avant d'évoquer le festival et le vélo, merci pour votre fidélité, vos messages, vos suggestions. Merci à vous qui nous accompagnez financièrement. Cause Commune a besoin de vos dons. Vos dons sont aussi un mode d'expression. Cause Commune, et oui, c'est une association. Pour donner, suivez le guide sur la page d'accueil de cause-commune.fm parce que cette radio, c'est, n'ayons pas peur des mots, votre bien commun. Cette semaine, We Love Green Loves Bikes. Mais avant, pourquoi faisons-nous du sport? Pour être en forme, bien dans son corps, rester jeune malgré l'âge qui avance. Si l'on en croit cette étude de l'université de Tel Aviv qui a scanné et analysé des milliers de messages sur Reddit, il en ressort que 23,9% des personnes qui pratiquent une activité physique le font pour améliorer leur apparence et seulement 18,9% pour améliorer leur santé. 17% pratiquent une activité sportive pour préserver leur santé mentale. Cette étude montre évidemment des limites et des biais. Elle reste néanmoins intéressante. Elle démontre à sa façon qu'il serait peut-être opportun de porter des messages différents pour donner envie de pédaler. Être ou devenir en bonne santé parce qu'on pédale pourrait être considéré comme une cerise sur le gâteau. Quel message vous semble plus porteur? Pédaler pour être en bonne santé ou dessinez-vous un body summer en pédalant? Lier une bonne santé au vélo, n'est-ce pas comme lier l'écologie au vélo? Un bénéfice secondaire. Je pédale pour garder ou me façonner un corps d'athlète. Et si c'est bon pour ma santé à long terme, eh ben tant mieux. Et donc je pédale. Et si c'est une façon d'agir pour préserver la planète, tant mieux. Vous le savez, le vélo et les cyclistes ne sauveront pas la planète. Vous le savez aussi probablement, vous pouvez pédaler autant que vous le voulez, cela ne vous empêchera pas de vieillir et même de mourir un jour. Pédalez et vous mourrez beau. Voilà un message plein d'optimisme. Dansez, déhanchez-vous, cultivez-vous, apprenez, réfléchissez. C'est le programme proposé par mes invités du jour. Ils vont recevoir pendant 3 jours plusieurs dizaines de milliers de personnes. Je reçois Marianne Ocard, qui est responsable du développement durable et des relations institutionnelles au sein du festival We Love Green. Et je reçois également Arnaud Lavergne, toujours pour We Love Green. Arnaud est responsable des partenariats. Quel rapport entre un festival de musique et le vélo? Eh ben, il y en a plein. Pourquoi et comment promouvoir les festivaliers à venir à vélo? Pourquoi parler randonnée à vélo sur la Seine Centrale, qui est un lieu de talk? Comment un tel festival peut être un moment pour éduquer et sensibiliser? Bonjour Marianne, bonjour Arnaud, merci de prendre 30 minutes dans cette dernière ligne droite, hein, c'est ça?
Oui, exactement, bonjour.
Ouais, donc c'est la dernière ligne droite, c'est ce week-end, hein, le festival We Love Green, il faut le rappeler, c'est dans le bois de Vincennes. Marianne, je vais commencer avec vous, Marianne Ocard. Ce qu'on peut voir sur vos bilans carbone que vous produisez, c'est que 51% du bilan carbone du festival provient du transport des festivaliers et l'ensemble de la logistique. Et pourtant, c'est ce que vous dites, il y a zéro parking voiture, sauf pour les PMR. À quel moment est-ce que vous avez identifié le vélo comme une solution pour venir et partir de votre site, comme une solution, je dirais, pertinente et finalement assez écolo?
Dès le départ, dès la création du festival, donc en 2011, puisque le choix a été tout de suite de localiser ce festival dans un contexte urbain, sur le territoire de la ville de Paris, sur un site qui soit bien desservi en transport en commun, déjà, et facilement accessible à vélo aussi. Donc on a changé de site entre la création du festival et aujourd'hui. On était au bois de Boulogne au départ et on est au bois de Vincennes aujourd'hui. Mais voilà, on a gardé cette volonté. Et le fait est qu'on a 85% à peu près de nos publics qui viennent en transport en commun et à vélo. Et que pour autant, c'est quand même effectivement la plus grosse part de notre bilan carbone, mais qu'on agit chaque année à essayer d'augmenter le nombre de personnes qui viennent avec la mobilité douce.
Est-ce que vous me dites, Marianne, et donc là je rebondis, vous dites depuis 2011, Arnaud, est-ce que proposer une solution vélo, c'est une attente du public, c'est quelque chose que vous ressentez quand les festivaliers se posent la question, mais comment je viens? S'il y a une solution vélo, ils sont plus enclins à venir?
Ouais, tout à fait, ça favorise la venue des festivaliers. De toute façon, on s'est engagé auprès comme disait Marianne, de la mairie de Paris et des communes qui entourent, qui ceinturent le Bois de Vincennes, à être un festival sans voiture.
Oui.
Donc forcément, à partir du moment où on est sans voiture, on est 100% transport en commun et vélo, bien entendu.
Oui. Et pareil, quand, alors là, je ne sais pas si je m'adresse à Marianne ou Arnaud, vous me dites depuis 2011, donc c'était il y a longtemps, je ne sais plus qui était le maire en 2011 de cette ville de Paris, mais quand vous avez obtenu les autorisations en 2011, on vous demandait, on vous disait, il faut absolument développer le déplacement à vélo de vos festivaliers.
Oui, on sent que ça a toujours été une attente de la ville de Paris, et puis on l'a vu depuis, elle s'est concrétisée avec beaucoup d'aménagements en faveur du vélo. Et du coup, cette attente-là, elle a été, d'ailleurs on y a participé, mais sanctuarisée dans une charte des événements éco-responsables de la ville de Paris qu'on a signée. Et du coup, dans cette charte, il y a effectivement l'incitation à faire aux festivaliers pour emprunter le vélo.
Ouais. Et Arnaud Lavergne, aujourd'hui, vous avez un partenariat avec Bosch qui s'occupe de proposer un Bosch, donc l'équipementier motoriste, qui propose un parking gardé, sécurisé pendant le temps du festival. Si ce partenaire Bosch n'était pas là, est-ce que vous feriez l'investissement de garder les vélos pour vos festivaliers?
Ben écoutez, c'est pas ce qui s'est passé puisque Bosch déjà ils sont là depuis pas mal d'années.
Ouais.
Donc c'est un partenariat qui est fidèle, c'est un partenariat qu'on aime beaucoup. C'est vrai qu'on a toujours eu un parking à vélo, mais un peu libre, où chacun laisse son autour de barrière, accroche son vélo à une barrière, et puis il n'y a pas de sécurisation, il n'y a pas de quoi que ce soit, de service attenant à ce parking. Alors que là, vraiment, depuis plus de 3 ans maintenant, on a vraiment un top service, on peut réserver son créneau en ligne, il y a des consignes aussi de sécurité, des messages de prévention, des petits conseils pratiques, et on a vu, en fait, enfin j'ai observé, que maintenant on vient en vélo, il y a beaucoup de familles qui viennent aussi à We Love Green, et maintenant on n'a pas peur de venir avec son beau vélo, alors qu'avant on venait avec, entre guillemets, son biclou, parce qu'on se dit, bon bah, c'est quand même pas safe, alors que là, maintenant, les gens qui sont bien équipés peuvent venir en toute quiétude.
Et ce que j'ai remarqué aussi, alors ça c'était il y a 2 ans je crois quand je suis venu, on nous demande quand on repart en fin de soirée si on n'a pas trop bu, si on est en état de rentrer à vélo, et si on, pour une raison X ou Y on avoue qu'on a un peu trop bu et qu'on n'est pas très prêt, ils peuvent garder le vélo toute la nuit, c'est ça?
Oui, c'est ça. Donc il y a d'abord il y a des SMS de sensibilisation puisqu'on prend le téléphone de chaque personne, chaque utilisateur, pour leur rappeler de faire attention à leur consommation d'alcool, notamment, puisqu'ils vont repartir plus tard en vélo.
Ouais. Faites la fête responsable, quoi.
Voilà, ouais. Et après, on veut prendre soin de nos festivaliers, ce qu'on veut, c'est qu'ils... Voilà, on est vraiment un festival bienveillant, donc ça va tout à fait dans la démarche qu'on développe avec Bosch. Et puis ensuite, on a même, pour ceux qui ont un doute, des outils de test qui sont à disposition pour se tester avant de repartir. Et effectivement, on peut laisser son vélo jusqu'au lendemain matin. Il faut espérer que tout le monde ne le fasse pas.
Oui.
Mais effectivement, on le garde jusqu'au lendemain matin. Enfin, on a un service comme ça qui permet de revenir le lendemain.
Est-ce que vous avez, alors pareil, peut-être que je m'adresse à Marianne Ocar, est-ce que vous avez senti une pression de la part, ou en tout cas une envie de la part de vos festivaliers de... Accompagnez-nous encore plus dans le fait de pouvoir venir à ce festival à vélo depuis 2011.
Ce qu'on constate, c'est que nos parkings à vélo, ils fonctionnent très bien. On les agrandit chaque année. Il y a effectivement le parking qui est gardienné, sécurisé en partenariat avec Bosch. On a aussi un parking à vélo de grande capacité à côté qui n'est pas sécurisé, qu'on propose aux festivaliers. Et on constate chaque année qu'il est, de plus en plus rempli, y compris les années où il pleut, comme par exemple l'année dernière. Donc on n'a pas une pression qui nous est mise. Je dirais qu'on anticipe la croissance de la demande des festivaliers et effectivement elle est au rendez-vous.
Et pareil, est-ce que ce serait compliqué? Je me rends pas compte. Je sais que je crois que de mémoire, sur le parking gardé, il y a une capacité d'environ 350 vélos. Sur le parking qui est attenant, qui n'est pas gardé, de mémoire, c'est à peu près 1000-1500 vélos, si je me souviens bien. Il n'y a pas moyen de faire un peu plus?
On n'est pas encore à saturation. Hein. Donc je pense que, évidemment, nous, on trouvera les moyens d'agrandir ça s'il faut. On a aussi, c'est important de le noter, une station Vélib géante oui. Qui est installée sur l'esplanade Saint-Louis, donc vraiment à 10 minutes à pied du festival, à l'entrée du bois de Vincennes. Donc c'est une station qui est éphémère, qui est installée le vendredi matin du festival et qui est démontée le lundi matin juste après. Ouais. Et ça fonctionne bien aussi. Pour l'instant, oui, on n'est pas à saturation, donc l'année prochaine.
Pourquoi proposer plus ?
Bien sûr. C'est complet, on trouvera les solutions.
Bien sûr. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'il faut dire. Allez-y, Arnaud.
Un point important, c'est que ce parking sécurisé est gratuit.
Oui.
Oui.
Puisque en général, ce type de dispositif est payant.
Oui.
Donc là, on a avec Bosch, on a décidé de le rendre gratuit. C'est aussi pour ça qu'on est obligé de calibrer aussi, dans la mesure de nos moyens respectifs, le nombre de places. Et bon, voilà, ça fait 3 ans, peut-être que, enfin, ce sera la 3e année de notre collaboration. Peut-être que on va avoir des retours d'enquêtes, de demandes à augmenter cette capacité, et on agira en conséquence pour les éditions prochaines.
Alors, parce qu'il y a ce type de service, il existe, hein, notamment au Parc des Princes les soirs de match. Alors peut-être même hier soir quand ils ont défilé dans le stade l'équipe du PSG, mais les soirs de match, en tout cas, il y a un prestataire qui accueille vos vélos gratuitement. Donc c'est payé par les Qataris, par le Parc des Princes, par l'équipe. Est-ce que vous savez si les festivaliers, vos festivaliers, seraient prêts à payer pour ce service, justement ?
On n'a pas forcément posé la question en ce sens, puisque là, on les a habitués à la gratuité.
Ouais.
Voilà, donc après, il faut être organisé, il faut être... faut réserver à l'avance parce que le parking va être complet, on va dire, je pense, la veille ou l'avant-veille du festival.
Ouais. Ok. Mais pour le coup, vous leur posez pas la question. Est-ce que vous seriez prêt à payer pour ce service ? Et d'ailleurs, ce qui est intéressant aussi, pour l'avoir vécu une fois, ce qui est hyper intéressant, c'est que ce parking vélo gardé, il est, on pourrait presque pas le mettre plus proche de l'entrée du festival finalement.
Oui, il est vraiment juste à côté de l'entrée, c'est le mieux placé.
Ouais.
Mais c'est une très bonne idée de poser la question de s'ils seraient prêts à payer nos festivaliers, festivalières pour garer leur vélo, et qu'on intégrera peut-être dans le sondage post-édition 2025.
Ouais. Et alors pareil, on parle de parking vélo pour les festivaliers. Quand je reprends l'une de mes premières questions, les premiers constats, c'était de se rendre compte que votre bilan carbone, c'est le transport et donc c'est aussi la logistique. Qu'est-ce que vous mettez en place au sein du festival pour promouvoir, je dirais, une mobilité douce d'un poste à l'autre ? Vous utilisez des véhicules intermédiaires ? Vous utilisez des vélos cargo, par exemple ?
Oui, alors déjà, nous, on choisit des prestataires qui sont majoritairement franciliens, voire parisiens, donc ce qui permet d'éviter les transports. Et ensuite, on met en place de la mutualisation du fret. Je pense par exemple aux 50 restaurants qui viennent sur le festival pour tenir un stand sur notre food court.
Ouais.
On mutualise du coup toute la logistique pour récupérer leurs denrées la veille du festival. C'est-à-dire que pour les 50 restaurants, en fait, il n'y a que 5 véhicules qui vont faire la tournée pour aller récupérer encore une fois leur offre. Ce qui est assez complexe en logistique, mais voilà, on est fiers d'y arriver.
Ouais.
Et ensuite, en effet, ce qu'on a développé depuis l'année dernière, c'est la logistique à vélo, ou cyclo-logistique. On a fait le test l'année dernière avec un cyclo-runner sur le site pour faire ce qu'on appelle les runs, nous. Donc aller chercher, acheminer du matériel sur le site ou à des distances assez courtes à l'extérieur du site jusqu'au site. Et ça a très bien fonctionné, surtout que l'année dernière, il a plu encore une fois et que finalement, le vélo cargo, c'était celui qui était le plus mobile dans des conditions un peu boueuses.
Ouais.
Et du coup, on a décidé de développer cette solution cette année. On aura deux cyclo-runners qui sont là d'ailleurs dès aujourd'hui pour la phase de montage, l'exploitation et le démontage. Et ça, c'est à la fois une avancée en termes de réduction d'impact carbone, d'émissions de gaz à effet de serre, et aussi super pratique comme solution.
Donc ça veut dire que quand vous dites un cyclo-runner, c'est quoi ? C'est comme si vous aviez deux coursiers dédiés à l'intérieur du festival et pour rayonner un peu autour si besoin avec un vélo cargo, c'est ça ?
C'est ça, exactement.
Ouais,
et ils peuvent transporter, j'ai plus exactement le tonnage, mais des quantités impressionnantes de matériel, des fûts de bière, ce genre de choses.
D'accord. Et ça, vous le sous-traitez ? Vous passez par une société de cyclo-logistique ?
C'est une société qui s'appelle Cyclologistique.
Ok.
Voilà, c'est tenu par Ludovic.
Eh ben, hyper intéressant.
Je conseille.
Il est 14h14, on va se faire une petite pause musicale. Il est temps de s'écouter une affiche. J'ai choisi une invitée qui sera à l'affiche de We Love Green, ce festival qui se tient donc dans le bois de Vincennes dès ce vendredi 6 juin jusqu'au dimanche. On va s'écouter Magdalena Bay, Ashes to Ashes. Vous écoutez Rayon Libre, vous êtes sur Cause Commune. Nous sommes en compagnie de Marianne Ocard, responsable du développement durable et des relations institutionnelles au sein du festival We Love Green, et Arnaud Lavergne, toujours pour We Love Green, qui lui est responsable des partenariats. Et je vous dis à tout de suite.
Cause Commune, la voix des communs.
Retour, c'est Rayon Libre avec Marianne Ocard, qui est responsable du développement durable et des relations institutionnelles au sein du festival We Love Green, et Arnaud Lavergne, responsable des partenariats, toujours pour We Love Green. Marianne, les artistes que vous recevez, vous les embarquez comment dans cette démarche développement durable ?
Alors, on les embarque par plusieurs moyens, par une charte déjà, développement durable, sur laquelle ils sont obligés de s'engager pour valider leur contrat.
Oui.
Ensuite, justement, dans les contrats artistiques, maintenant, on intègre des clauses qui sont liées au développement durable. Je pense notamment aux clauses sur la limitation des puissances énergétiques qu'on leur fournit pour les scènes,
oui.
ce qui est assez nouveau. Nous, on le fait depuis 2 ans, et pour le coup, ça n'existe pas ailleurs. Donc, c'est à chaque fois des discussions compliqué avec les artistes et leurs productions.
Parce que eux, ils veulent, entre guillemets, pour le traduire en langage courant, ils voudraient des watts pour envoyer du son très fort, et quand vous vous dites non, on baisse.
La vidéo, des lumières.
Ouais.
Et nous, on leur dit non. non, sur We Love Green, c'est limité à tant sur telle scène, à tant sur telle scène. Et du coup, merci de vous conformer à ça.
D'accord.
Donc, c'est à chaque fois beaucoup de débats, mais voilà. On a bon espoir de faire évoluer les choses petit à petit, parce que, en plus de ça, nous, quand on arrive à 3 mois du festival pour signer les contrats, évidemment, les scénographies, elles sont déjà faites depuis longtemps.
Ouais.
Donc, c'est encore une fois un argumentaire qui doit se faire sur le long terme.
Ouais.
Voilà.
On en parlait aussi hors antenne, mais alors juste pour quand même, avant de poser ma question suivante, est-ce que cette limitation de watts que vous évoquez, c'est pas d'une manière ou d'une autre dégrader un peu l'expérience du festivalier qui va en prendre un peu moins plein les oreilles et plein les yeux, mais finalement au profit d'une consommation énergétique mieux maîtrisée?
Bah en fait, ce qu'on constate, c'est que d'année en année, justement, la tendance va un peu à l'inverse. Les choses sont de plus en plus gros, il y a de plus en plus de vidéos, de lumières, d'effets, de pyrotechnie, etc. Et les festivaliers sont pas forcément en demande de ça. Oui. Mais évidemment, si on leur propose, ils sont forcément plus éblouis et plus heureux. Donc, je pense que c'est de notre responsabilité, en tous les cas, de, à un moment donné, freiner cette tendance, oui. En tout cas, pas forcément l'arrêter, mais la freiner. Et c'est pour ça qu'on a besoin de le faire de manière collective avec d'autres festivals et syndicats, institutions. Un seul festival tout seul sur ces sujets, il a peu de poids.
Oui.
Mais oui, forcément, l'envie des festivaliers, c'est d'en voir toujours plus.
Oui.
Donc voilà. En tout cas, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de trouver le bon équilibre entre l'expérience que peuvent avoir les festivaliers et l'impact que peut avoir le festival.
Ouais, je comprends. On en parlait hors antenne, la raison d'être de ce festival, d'ailleurs, il faudrait peut-être la rappeler, Marianne ou Arnaud, c'est de rassembler dans un cadre festif des dizaines de milliers de personnes et en profiter pour glisser des messages qu'on va appeler développement durable. C'est ça la raison d'être au départ de We Love Green?
Ouais, c'est vraiment ça. Le festival, il est porté par une association, l'association We Love Green, dont l'objet social, c'est de sensibiliser les audiences aux enjeux du développement durable à travers l'organisation d'un événement.
Ouais.
Voilà, We Love Green, c'est effectivement un festival de musique, principalement, mais c'est aussi un festival de contenu engagé. C'est pour ça qu'on a une scène de conférence qui s'appelle le Think Tank, sur laquelle il y a des tables rondes, de l'humour, du stand-up. Il y a aussi des formats très différents, d'ailleurs, cette année, des duels de chat, des intermèdes, du slam, etc. Qui sont du coup que des contenus engagés, entre guillemets, donc qui tournent autour des enjeux sociétaux, sociaux et environnementaux. Et voilà, cette scène, pour le coup, elle a été créée en 2014. Au départ, c'était un Tipeee avec 20-30 personnes qui pouvaient s'asseoir. Aujourd'hui, c'est une vraie scène à part entière du festival. Il y a plus de 1500 personnes qui peuvent venir assister aux conférences et ça ne désemplit jamais. Donc ça nous conforte dans l'idée qu'on a un rôle à jouer de ce côté-là.
Oui, et notamment sur cet espace, vous allez parler de voyage à vélo cette année.
Exactement, ouais. Cette année, on a justement un de ces formats un peu innovants qui est un tuto pour comment voyager à vélo, comment est-ce qu'on s'organise de manière très très pratique pour s'équiper, préparer son itinéraire, gérer des imprévus, météo, etc.
Ouais.
Et du coup, on accueille Recto Verso et Climax pour ça, et l'influenceur Matteo Ballet.
Oui.
Et ce sera du coup le dimanche.
D'accord. Et alors pareil, parce que ça, c'est, je sais qu'il y a un an ou deux ans, vous aviez un partenariat, c'était vous, Arnaud, qui avez géré ce partenariat avec la FFCT, la Fédération Française de Cyclotourisme?
Alors pour le coup, non, c'était Marianne
oui.
qui avait géré ce partenariat. Je vais laisser développer.
Et pourquoi pas le continuer en 2025, ce partenariat?
Alors pour le coup, c'est quelque chose qu'on avait initié l'année dernière parce qu'il y avait une occasion un peu particulière. La fédération a organisé un grand événement qui s'appelait Ensemble à vélo à Paris, aux Bonnes Anciennes justement, le même week-end que We Love Green, à la CIPAL, donc le vélodrome historique du
À 2 km ou 3 km de votre site.
C'est ça, voilà. Donc on s'est dit, on peut pas ne pas faire quelque chose ensemble, sachant nous ce qu'on essaie de faire justement en faveur des mobilités douces, le vélo, etc. Et du coup, on avait organisé ensemble la possibilité d'acheter des billets à tarif réduit pour le festival et de rejoindre les convois à vélo organisés par la fédération de toute la France pour rejoindre Paris du coup ce week-end-là. On s'est aperçu qu'on avait quand même des publics assez différents.
Oui.
Voilà, c'était pas les mêmes audiences et finalement ce dispositif sur lequel on avait mis beaucoup d'énergie d'un côté comme de l'autre, il a rencontré assez peu d'écho, peu de succès. Alors que en plus on avait engagé des influenceurs qui s'appellent les Rookies sur le coup aussi pour l'amplifier, le promouvoir. Et du coup on s'est dit voilà, si même à l'occasion d'un événement comme ça, ça prend pas, c'est peut-être que on est peut-être pas aligné sur les audiences. Donc on n'a pas renouvelé cette année, mais peut-être que l'année prochaine, si on a par exemple l'accompagnement de la ville de Paris sur un programme un peu plus spécifique encore sur le vélo, peut-être qu'on pourrait pourrait réengager ces discussions avec eux.
Parce que là, vous êtes en discussion sur l'édition 2026 avec justement un sujet sur, et pourquoi pas, une sorte de convergence à vélo pour aller assister au festival Wheel of Green.
Ouais, ça fait longtemps qu'on a envie d'organiser ça. Enfin, je vous dis, on a fait l'essai l'année dernière, et ça fait aussi longtemps qu'on a envie d'organiser des choses avec la ville de Paris sur le sujet du vélo, des mobilités et du sport.
Ouais.
Le sport, c'est quelque chose qu'on a déjà développé pas mal sur le festival, y compris dans les contenus, notamment en 2023 où on avait participé à l'Olympiade culturelle, on avait une grande rampe de skate qui était installée sur le festival, on avait des démonstrations de
BMX, tout à fait,
justement, et on a vu que c'était, ça avait rencontré un très grand succès. Auprès de nos publics et notamment des publics familles dont parlait Arnaud tout à l'heure. Et du coup, on se dit qu'il y a peut-être encore quelque chose à faire côté sport.
Je pense qu'il y a des choses à faire. Il est 14h25, on va s'écouter la chronique d'Abel Guggenheim. On se retrouve pour une dernière question qui sera très pratique, Arnaud et Marianne. Comment on fait pour venir, qui on peut voir, et puis donnez-nous une bonne raison de venir assister à votre festival. Pour l'instant, c'est la chronique d'Abel Guggenheim qui va lui nous raconter une expérience un peu bizarre qui lui est arrivé cette semaine sur son vélo. Abel, on t'écoute.
Bonjour, je vous raconte aujourd'hui une anecdote qui m'a beaucoup impressionné. Je ne sais pas si je parviendrai à vous faire ressentir ce que j'ai ressenti et surtout les réflexions qu'elle a provoquées chez moi. C'était un soir de la semaine dernière au Carrefour des Arts et Métiers, tout près de chez moi. Ce carrefour est en travaux. On y a conservé, dans un sens, le tracé de la piste cyclable de la rue de Turbigo qui traverse le carrefour. J'étais à pied, en sortie de carrefour pour cette piste que je m'apprête à traverser. La figurine représentant un piéton qui me fait face est rouge. Elle passe au vert. Je commence ma traversée. Deux cyclistes arrivent par la piste, une jeune femme en tête. Je sais que les deux ont brûlé le feu qui se trouve à l'entrée du carrefour que je connais bien. De la même façon, je vous l'ai expliqué récemment que je le fais devant les automobiles lorsque j'emprunte un passage piéton sans feu. Je ne ralentis ni n'accélère mon pas, ce que la jeune cycliste ne semble pas avoir envisagé puisqu'elle continue son chemin jusqu'à être contrainte de s'arrêter puisque je me trouve juste devant elle au moment où elle arrive. Je précise qu'elle ne roulait pas vite, il me semble qu'elle était sur un vélib sans assistance. À cette étape de mon récit, vous attendez peut-être à une altercation verbale, à ce que le ton monte entre nous. Pas du tout. Elle m'explique avec calme que je suis imprudent et me conseille sur un ton plutôt bienveillant de prendre soin de moi comme on expliquerait à un enfant de ne pas sortir de la maison lorsqu'il y a un orage ou à un adolescent de se méfier des réseaux sociaux. Je lui fais observer que j'ai une figurine verte en face de moi et lui précise qu'elle a brûlé un feu rouge. Elle ne le nie pas, ne le confirme pas non plus. Il est clair que cette information ne l'intéresse pas. Qu'elle n'a pour elle aucune pertinence dans ces circonstances, elle se sent totalement justifiée à passer là au moment où elle l'a décidé et pense que c'est à moi de tenir compte de son droit de passer. Vous le savez, si vous m'écoutez un peu régulièrement, je ne suis pas un fanat du respect absolu de la civilisation, en particulier quand elle n'a pas d'utilité concrète et ne correspond qu'à un respect formel de ce qu'il m'arrive d'appeler la religion des ampoules colorées. Je suis par contre à fond pour un respect prioritaire des personnes et des règles lorsqu'elles sont, comme dans ce cas, utiles pour définir des préséances de circulation. En fait, cette anecdote n'a rien de surprenant. Elle n'est qu'une manifestation concrète de ce que, comme d'autres, je suis contraint de constater. Il existe une catégorie de cyclistes pour lesquels la circulation des cyclistes est devenue une donnée prioritaire à laquelle les piétons doivent se plier dans toutes les circonstances, et celles et ceux qui n'acceptent pas cette domination naturelle sont des imprudentes et des imprudents. J'ai été imprudent, comme si j'avais voulu traverser à la nage un large fleuve ou la cage des lions aux eaux. La domination de l'automobile et de l'automobiliste était et est encore largement aujourd'hui assurée par une acceptation implicite de la société. Aux piétons obligés de descendre sur la chaussée et aux cyclistes forcés de la rejoindre parce qu'une automobile qui stationne obstrue l'un et l'autre, il existe toujours de bonnes âmes pour expliquer qu'il leur suffit d'en faire le tour. Il y a aujourd'hui des cyclistes qui reprennent le rôle des automobilistes. À lundi prochain.
C'était Abel Guggenheim. Arnaud et Marianne, merci beaucoup. Alors, comment on fait pour s'inscrire et pour réserver une place pour venir à vélo? C'est sur le site de Wheel of Green?
Oui, tout à fait. C'est ça.
Donc on se laisse guider sur Wheel of Green.
On peut même réserver donc sa place au parking à vélo gardienné, sécurisé, gratuit.
Eh ben super, voilà. Grâce à Bosch notamment.
Coup, il reste des places pour le festival vendredi et dimanche. Dimanche, on a donc cette super atelier sur la scène du think tank, sur le tuto comment faire des longs voyages à vélo.
Ouais.
Donc n'hésitez pas. Et puis on a aussi une super programmation musicale. Le vendredi, on a Val de Tiakola, SDM, Kavinsky, Ideut, voilà, et plein d'autres. Et le dimanche, on a SK Twigs, on a Clara Luciani, Beach House, Polo et Pan, Zamdan, Lucky Love et bien d'autres encore.
Et Lucky Love notamment, qui est formidable. Merci beaucoup, oui. Marianne. Merci beaucoup, Arnaud, pour votre présence. Je vous laisse filer, retourner aux derniers préparatifs de ce festival. Auditeurs, auditrices, ça y est, ce rayon libre est terminé. La semaine dernière, j'évoquais les causes et le vélo. J'ai bien envie de me lancer dans un tour de France à vélo, des festivals, histoire de vérifier l'accueil des cyclistes. N'oubliez pas, une journée sans pédaler est une journée gâchée. Marianne, Arnaud, merci à vous et je vous souhaite un très bon festival. Auditeurs, auditrices, vous pouvez y aller ce vendredi et dimanche. Et sinon, vous pouvez rester sur 93.1, cause commune, il est 14h30. Merci de votre fidélité, merci pour vos messages et vos commentaires et je vous dis à la semaine prochaine.